Donc, ce que j'ai compris du programme, parce que du coup, je me greffe un petit peu, même s'il était prévu que j'intervienne au départ. On a essayé de repenser un petit peu la journée d'aujourd'hui par rapport à ce que vous aviez fait jusqu'à présent. L'idée, c'est d'aborder la question de la professionnalité, donc la professionnalité enseignante surtout, mais pas seulement. On verra où nous amènent nos échanges par la suite, avec en filigrane cette idée cette question, en fait, qui nous interroge sur est-ce qu'il y a une professionnalité particulière à l'éducation prioritaire, est-ce qu'il y a une professionnalité enseignante particulière à l'éducation prioritaire, ou est-ce que finalement la professionnalité enseignante se décline de la même façon, quel que soit le contexte d'intervention, y compris dans l'éducation prioritaire. S'il y a des différences, quelles sont-elles et comment est-ce qu'elles s'actualisent dans le quotidien de l'éducation prioritaire? C'est le type de questions qui, je pense, est intéressant d'aborder lors de cette journée. Alors, on a pris le parti de l'aborder sous l'angle de l'analyse du travail et notamment des dispositifs de formation qui se basent sur l'analyse du travail, donc comme la plateforme Neopass Action que je vais vous présenter et qui va nous servir de base de travail pour la suite. On reprécisera la consigne au moment de partir sur les ordinateurs. Mais au Centre Alain Savary, donc on est un centre de ressources dédié initialement à l'éducation prioritaire, mais c'est vrai que nos enjeux depuis peut-être 1, 2, 3 ans se centrent aussi beaucoup sur les questions de professionnalité, y compris en débordant de l'éducation prioritaire, et même y compris en débordant du métier enseignant et même de l'éducation nationale. Et donc, il nous semble que l'outil qui nous a influencé, nous, dans cette démarche, qui est donc l'ensemble des outils qui sont les outils de l'analyse du travail, il nous semble quand même très pertinent et très puissant pour comprendre un certain nombre de phénomènes dans la profession. Et donc, on va essayer de vous faire une petite entrée, un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ces outils-là pour comprendre le travail et pour le didactiser à des fins de formation initiale et continue. Donc, pour refaire la genèse de cet outil de formation qu'on appelle Neopass Action, donc au départ, il se base sur un travail de recherche au long cours qui a duré plusieurs années et qui est donc inscrit dans un observatoire de l'entrée dans le métier des enseignants débutants et qui est situé donc dans l'éducation prioritaire, à savoir dans l'Académie de Créteil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc la question de recherche initiale, c'était de dire comment est-ce que l'immense majorité des enseignants débutants qui, lorsqu'ils sont titularisés, le sont dans des zones sensibles, développent leur professionnalité dans ces zones dites sensibles, notamment de l'Académie de Créteil. Donc il y avait dès le départ une question de recherche et une question de formation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes enseignants qui débutent dans le métier et qui débutent dans les conditions dont on s'accorde à dire que ce ne sont pas les plus faciles. Donc on parla des travaux de l'UCRIA évoqués par Patrick tout à l'heure. Donc initialement, le départ, ça a été donc de contractualiser avec un certain nombre d'établissements de la Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez donc la région surtout de Saint-Denis, avec le collège Garcia Lorca, le collège Iqbal Massi, le collège Évariste Gallois, donc qui sont des collèges qui sont malheureusement le plus souvent connus pour les tristes événements qui s'y sont déroulés, mais qui sont des établissements dont les chefs d'établissement ont accepté d'ouvrir les portes pour qu'on puisse voir ce qui se passait un petit peu pour les enseignants qui débutaient dans ces établissements difficiles. Donc ça a commencé avec une petite caméra au fond de la salle, hein, tout simplement. Vous voyez, un dispositif très discret qui vise à ne pas perturber la situation réelle de travail, puisque le maître mot des méthodes d'analyse du travail, c'est l'activité réelle. C'est-à-dire qu'on passe d'un système de formation qui, souvent, en appelle au métier idéalisé de l'enseignant, au métier idéal. Voilà, si vous voulez devenir un bon enseignant, il faudrait que vous arriviez à faire ça, en gros, être le meilleur didacticien possible de votre discipline. Et les problèmes quotidiens réels de gestion de classe et d'articulation entre la transmission du savoir Et le climat de classe ou l'atmosphère pédagogique, c'est quelque chose qui, je ne dirais pas est évincé, mais qui souvent ne s'ancre pas dans la réalité de l'activité réelle de ces enseignants dont on sait que la première préoccupation est le contrôle de la classe. On sait que dans l'échelle des préoccupations des enseignants, la préoccupation de transmettre un savoir, elle arrive uniquement lorsque l'enseignant est plus tranquille, on va dire, avec son vécu en classe, tout simplement. C'est la réalité, voilà. Je m'appesantis un peu là-dessus, mais c'est l'activité réelle est vraiment le maître mot de cette entrée, donc c'est important, je pense, de faire un point là-dessus. Donc voilà, un dispositif discret qui cherche à se faire oublier et qui parvient hein, très rapidement. On a des élèves qui oublient complètement la caméra et qui font les mêmes facéties habituellement alors qu'ils sont à quelques centimètres de la caméra. Et donc un dispositif qui permet de recueillir des données de l'activité réelle, comme ceci, avec donc des enseignants qui sont suivis sur des empans longs, donc à l'échelle de mois, voire à l'échelle d'années. Il y a même donc notamment 2-3 collèges que j'ai déjà cités, dans lesquels on continue d'être présent pour suivre aussi l'évolution de l'établissement, en fait, du corps enseignant, mais aussi des dimensions du pilotage, ainsi de suite. Et donc, ce recueil fait de l'activité en classe sert ensuite de support pour ce qu'on appelle les entretiens d'autoconfrontation. C'est-à-dire qu'on va confronter l'acteur, en l'occurrence l'enseignant, à sa propre activité de classe, et on va essayer de comprendre ce qui est surtout significatif pour lui dans la situation. Toujours avec cette idée de toucher à l'activité réelle, on cherche à comprendre ce qui est important pour l'enseignant dans la situation, au travers de ce qui le préoccupe, de ce qu'il perçoit, donc ce qu'il voit, ce qu'il sent. Hein, vous savez comment on peut, quand on s'exprime, quand un enseignant parle de sa classe, il peut dire bah là je les sens pas, ou là je suis pas dedans, ou voilà, tout un espèce de métalangage qui est très significatif, mais encore faut-il se donner la peine de creuser ce qu'il y a derrière ces vocables tels que là je les sens pas, là je suis pas dedans, et qui permettent de comprendre les indices perceptifs qui sont pris par l'enseignant dans sa classe pour en fait organiser son activité de classe, co-organiser son activité de classe avec celle de ses enseignants.
Ceux qui sont dans une démarche de formation dans le master, hein, puisqu'il y en a un certain nombre d'entre vous là qui sont dans le master de formation de formateurs, vous voyez bien la différence de posture avec une posture de type entretien-conseil, où là, dans l'entretien-conseil, celui qui vient visiter le débutant, il est par définition un expert, et il a une représentation sur ce qui est en train de se passer. Si les élèves ont mis le cirque, c'est parce que ta situation, elle est comme ci, comme ci, comme ça. Donc, ce qui est le changement dans cette perspective-là, c'est que celui qui conduit l'entretien, il essaye, c'est toujours très compliqué, de faire abstraction de ce que lui a compris de la situation pour faire expliciter à la personne ce que la personne a vécu de cette situation. Et qu'est-ce qui est, comme l'a dit Simon, significatif pour lui ? Et on verra que ce renversement de posture, ça ouvre un certain nombre de possibilités.
Ça a plusieurs intérêts. Donc, comme l'a dit Patrick, l'important, c'est que la personne qui mène l'entretien mette de côté momentanément, autant que faire se peut, ses propres catégories de compréhension de la situation, de sorte que les catégories dites dans le vocable scientifique indigènes, c'est-à-dire les catégories à l'œuvre dans la vraie vie, ressortent comme, soient élucidées et deviennent explicites. Effectivement, c'est tout sauf un entretien de conseil pédagogique, même si on sait que par différentes façons, expliciter sa propre action et verbaliser sa propre action permet de mieux la comprendre et a forcément on fait des travaux dessus pour justement préciser en quoi c'est formateur, mais on sait que ça a des effets formateurs. Donc là, c'est un dispositif qui est assez intéressant pour nous parce qu'initialement, ça permet d'avoir un dispositif complémentaire de formation pour ces enseignants qui travaillent avec nous, et ça permet nous de mieux comprendre l'activité enseignante et de produire des ressources basées sur l'activité réelle de ces enseignants. Donc ce sont des études descriptives et compréhensives de l'activité ordinaire, hein, je l'ai dit, l'important c'est vraiment ça, c'est le quotidien des classes. On arrive un beau jour dans une classe indépendamment du moment du cycle, indépendamment de ce qu'on est en train de travailler dans la séquence. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'activité qui est développée, donc sur des empans temporels longs, comme je l'ai dit, et avec des établissements donc, qui, euh, sont partenaires et qui nous ouvrent régulièrement les portes de leurs établissements. Donc à partir de là, ça fait quelques téraoctets de vidéos plus tard, on arrive avec une collection de situations de classe assez monumentale, mais c'est ce qui permet justement d'avoir une ce qu'on appellerait une monographie de toutes ces situations de classe. C'est bien le but d'un observatoire, hein. Un observatoire, c'est vraiment de produire des collections de séquences très importantes qui nous permettent ensuite de mettre de l'ordre, c'est-à-dire de faire une typologie des situations de classe, et donc ensuite de rechercher le meilleur représentant de cette collection de cas, donc ce qu'on appelle dans le vocab scientifique avec un gradient de typicalité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pléthore de situations de classe, il faut trouver quel est le dénominateur commun sur tel type d'activité, de façon à pouvoir retrouver ensuite un cas qui est particulièrement représentatif de ce qui se joue dans la situation, ayant trait aux préoccupations donc des enseignants dans leur situation de classe. N'hésitez pas à poser des questions et m'interrompre si c'est pas clair. Je préfère ça plutôt qu'on faire une intervention un peu fleuve et puis qu'on se rende compte finalement qu'il y a des mécompréhensions à la fin. Oui, dites-moi. Donc ce sont des théories qui nous viennent donc de l'ergonomie, de l'analyse du travail. Et c'est dans le vocabulaire de l'ergonomie, on parle des observables. Donc les observables, c'est tout ce qu'il est possible d'observer. Et donc ensuite de la documentation de l'action. C'est-à-dire que si on en reste aux observables, c'est-à-dire ce qu'il est possible de voir sur la vidéo, on perd toute la dimension sensible, subjective de la situation, et donc finalement on passe à côté, tout simplement. C'est ce qui fait qu'on a, on peut avoir la prétention de dire qu'on a un dispositif innovant, non pas parce qu'il utilise la vidéo, puisque la vidéo dans la formation, même dans la formation des enseignants, ça existe depuis des années et des années, mais par cette entrée ergonomique, cette entrée de ce qu'on appelle aussi la didactique professionnelle, c'est-à-dire l'analyse du travail, donc la documentation des observables. Ce qu'il est important de comprendre à ce moment, c'est que l'important de la pierre angulaire de ce dispositif, ça n'est pas la vidéo en fait. C'est souvent ce qu'on pense. En réalité, non, la vidéo, c'est simplement le meilleur moyen qu'on a trouvé pour analyser le travail. Mais voilà, l'important, c'est surtout l'analyse du travail. Finalement, cet outil Neopass Action, il suit un schéma en boucle. Donc, on part donc d'un observatoire de l'activité des enseignants débutants qui continue, c'est-à-dire qu'on a tout un groupe de pilotage scientifique qui travaille sur des études complémentaires sur le développement professionnel des enseignants. Donc ça, c'est notre lame de fond, en fait, hein. C'est cet observatoire continu qui tourne sur lui-même et dans lequel on puisse pour ensuite construire des ressources pour la formation. Donc, avant de devenir ressource, c'est-à-dire avant de revenir ressource et ingénierie de formation, c'est-à-dire de se retrouver en fait sur un site, on a d'abord des sessions de formation qui sont utilisées avec ces situations de travail qui sont mises en boîte et documentées via les entretiens d'autoconfrontation. Donc on fait fonctionner d'abord ces ressources en formation pour essayer de voir quand même s'il se produit des choses. Et on est toujours... les retours des formateurs de terrain nous sont toujours très précieux parce que c'est ce qui nous permet ensuite de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins et comment ça fonctionne. Donc ça se traduit par des analyses des effets sur l'activité des formés. Il y a beaucoup d'études qui sont menées là-dessus. C'est notamment l'objet de ma thèse, essayer de voir ce qui se passe chez les formés quand on utilise des dispositifs basés sur l'analyse du travail. Et à partir de là, donc, on peut concevoir donc notre plateforme. Donc elle existe déjà et ça n'est pas un produit fini dans le sens où tous les jours on travaille à l'amélioration de cet outil par différents moyens, par l'alimentation des thèmes sur lesquels on travaille, mais aussi par la création de scénarios de formation, c'est-à-dire sur l'optimisation de l'utilisation des ressources actuelles. Voilà, on a plusieurs champs de développement pour cet outil-là. Et donc, on est dans une phase qui fait les allers-retours entre les résultats qui sont produits par les recherches sur le développement professionnel des enseignants, sur la vidéo-formation des enseignants, sur la didactique professionnelle utilisée par les enseignants, sur la façon dont toutes ces ressources sont utilisées en formation, et ça nous permet de reconsidérer la façon de produire des ressources, et notamment pour cette plateforme Neopass Action. Donc, on arrive à quelque chose comme ça. Est-ce que d'aucuns d'entre vous sont déjà allés sur cette plateforme? Il y a plusieurs qui connaissent déjà. Une petite moitié? D'accord. Bon, c'est bien, ça va me faire gagner du temps pour la suite. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc, je vais terminer sur mes sur la présentation globale. Donc, on a maintenant 8 laboratoires de recherche qui sont associés à notre à ce programme de recherche, qui est plus un programme qu'un projet, dans le sens où il y a vraiment un programme de recherche et conception de ressources. Donc, on arrive à plus de 700 extraits vidéo sur la plateforme. Donc, vous voyez qu'il est important maintenant pour nous d'arriver à les scénariser, parce que c'est assez difficile en termes d'utilisabilité pour un formateur d'arriver et d'utiliser à bon escient 700 extraits vidéo. On a 6 thèmes de recherche, 6 thèmes de formation et bientôt 7. Et vous aurez le temps de les regarder un petit peu lors de votre travail en salle de formation. Et donc, on arrive à 11 000 abonnés et jusqu'à 400 visites par jour. Donc, c'est quand même un dispositif qui commence à avoir une place dans le champ de la formation. Alors, 11 000 abonnés, ça ne présume pas de la façon dont les gens utilisent l'outil. Mais par les enquêtes qu'on a faites, et je ferai un petit point dessus juste après, on sait que c'est quand même un outil qui, d'une certaine façon, modestement, mais réellement, commence à entrer dans les pratiques de formation usuelles des enseignants, et même pour d'autres corps professionnels que les enseignants. Donc, vous expliquer comment fonctionne cette plateforme. Donc, vous pouvez voir qu'en haut, il y a écrit thème 1, l'entrée en classe et la mise au travail. Donc ça, c'était le thème principe, c'est-à-dire c'est le premier thème qui a été construit à l'issue donc de cet observatoire de l'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Donc là, il est apparu que les résultats de recherche ont montré que d'un point de vue activité, la première préoccupation de l'enseignant était d'assurer l'entrée en classe de ses élèves et de les mettre au travail. On s'est rendu compte que si on spécifiait la préoccupation de maîtrise et de contrôle des élèves, d'un point de vue activité, ça se traduisait notamment par le début chronologique du cours, c'est-à-dire accueillir ses élèves et commencer le cours au sens de mettre les élèves au travail. Donc, cette thématique-là était la première retenue. Donc, vous verrez, il y en a 5 autres maintenant. Il y a aider les élèves à travailler et à apprendre, faire classe à cours double. Donc, ça, c'est pour le primaire. Faire parler les élèves à l'élémentaire ou gérer les incidents. Ça, ce sont les grandes thématiques qui ont été développées sur la plateforme. Donc ensuite, comment est-ce que cette thématique est traitée ? Donc je vous parlais tout à l'heure des cas étant, enfin des situations étant retenues comme les plus typiques, comme les plus représentatives d'un ensemble de situations. Donc c'est ce qui nous permet d'arriver à la logique verticale du thème. Donc comme je vais vous l'expliquer, on a deux logiques. Par thème, en fait, on a toujours une logique verticale et une logique horizontale. La logique verticale, ce sont donc les situations typiques qui permettent de cerner au mieux la thématique qui est investiguée. Donc là, en l'occurrence, Lucria qui a élaboré cette typologie, il a remarqué que pour tous les enseignants qu'il était allé voir en classe sur cette séquence d'activités typiques qui est l'entrée en classe et la mise au travail, il y avait 6 façons d'agir. Alors en réalité, il y en a plus, mais il a pu en circonscrire 6 qui étaient assez emblématiques. 6 façons d'agir de l'enseignant dans cette situation-là, dans ce passage à risque-là. Donc la première, c'est la mise à l'épreuve, c'est-à-dire un enseignant qui est vraiment en difficulté, qui ne trouve pas les moyens d'agir et qui n'a pas les gestes professionnels efficaces, on va dire, qui lui permettent justement de mettre les élèves au travail, et donc qui est simplement dans une attente un petit peu impuissante, ce que vous pouvez voir d'ailleurs sur la photo avec cet enseignant qui est derrière son bureau, les bras croisés, dans une sorte d'impuissance. L'attente interminable, c'est sensiblement la même chose. Je vais pas vous rentrer trop dans le détail puisque vous aurez peut-être le temps de voir. L'entrée de l'écrit contrôle, hein, c'est-à-dire vous prenez une feuille, vous écrivez. C'est une façon de faire. L'écrit apprentissage qui s'en détache sensiblement, dans le sens où on donne une tâche écrite dès le départ du cours, mais avec une visée didactique derrière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un écrit contrôle, vous prenez une feuille et vous écrivez. Des règles économiques qui dépassent donc le simple instrument qui permet de mettre les élèves au travail, c'est-à-dire on a construit déjà des rituels, une posture qui permettent de mettre les élèves au travail, et l'accueil par la présence physique qui est encore un autre niveau, qui dépasse encore la simple, entre guillemets, exécution de règles de classe. Donc, à chaque fois, on a une situation typique qui est donc illustrée par une situation de classe. Donc ça, c'est, vous l'avez vu et Patrick en a parlé au départ, la base de l'ingénierie, c'est une situation de classe. Donc on filme un enseignant qui est en train d'agir dans sa classe, dans le quotidien de sa classe, et on documente la situation avec un entretien d'autoconfrontation. Bon, je retire rien là-dessus, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc là, on rentre dans la dimension horizontale. C'est-à-dire que pour chaque... j'aurais dû passer sur le site internet directement. Voilà. Donc pour chaque situation typique, vous avez donc la situation de classe, l'entretien d'autoconfrontation dans laquelle donc on peut voir l'enseignant qui s'exprime sur son activité. Ah, donc, pour reprendre le vocabulaire de l'analyse du travail en même temps, donc on a les observables, on a l'accès donc à la subjectivité de l'acteur, puis on a ici les vidéos témoignages qui permettent d'étendre la compréhension de l'action à la communauté de pratique, ce qu'on appelle la communauté de pratique, c'est-à-dire qu'on a les débutants, donc on a la communauté de pratique des enseignants débutants, donc, dont on pense qu'ils partagent un certain nombre de choses, un certain nombre de traits, de métiers avec leur pair. Ensuite, on étend la communauté de pratique aux enseignants expérimentés. Donc là, on a la documentation par l'ensemble de la communauté de pratique des enseignants. Et puis, on arrive à un témoignage des chercheurs. Donc les chercheurs qu'on sollicite sur ces activités, donc ce sont évidemment ceux qui produisent les ressources. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ingénierie selon laquelle on aurait des concepteurs de ressources qui font le travail et puis qui demandent ensuite à des chercheurs qui n'ont pas été associés à la démarche de venir apporter un éclairage hors sol à la situation. Donc ce sont les gens qui ont participé à la construction des ressources qui ont été sollicités parce qu'ils sont justement les spécialistes de la thématique qui est investiguée. On a des gens qui... là, on a Christine Félix qui est dans l'équipe, dans le laboratoire AirGap d'Aix-Marseille. Donc AirGap, c'est l'ergonomie de l'activité professionnelle enseignante. Donc voilà, des gens qui sont spécialistes de l'analyse de l'activité enseignante avec donc des champs aussi divers que la sociologie du travail ou l'ergonomie du travail enseignant, mais toujours cette entrée activité qui donc est le dénominateur commun des gens qui travaillent sur cette plateforme.
Donc j'ai bien compris, est-ce qu'on peut aller plus loin, logique, verticale, des situations typiques de travail qui sont récurrentes, qu'on va toujours trouver, enfin, qu'on va trouver massivement chez les débutants. Donc, c'est des situations ordinaires. Et parfois, c'est des situations où on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans ? Parce que ça ne saute pas forcément aux yeux, et vous allez en découvrir, on va vous laisser du temps pour le faire. Ça ne saute pas aux yeux, qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette situation ? Qu'est-ce qu'on comprend de cette situation ? Et vous verrez que ça n'est que... en essayant de regarder ce que les différentes personnes, donc l'acteur lui-même, ses pairs débutants ou les pairs plus expérimentés, les universitaires, posent comme signification, avec des S à signification différente sur ce qui se passe dans la situation, qu'on va gagner en intelligibilité de la situation. Mais toujours sans être absolument sûr de comprendre ce qui se passe. Oui, c'est toujours, tout est référé, c'est-à-dire que par exemple, si on est sur cette situation-là, tout ce qui est le vécu débutant, expérimenté, chercheur, il est référé à cette situation-là et il sera différent quand on est à une autre situation où à chaque fois on aura des débutants, des expérimentés qui parleront de cette situation. C'est-à-dire qu'ils commentent, par exemple ici, Jacinthe, elle commente cette activité-là. Alors ça, nous on l'a scénarisé, y compris dans les images que vous voyez, où on montre bien... que ici, on parle de cette situation, et Jacinthe, elle parle, et on voit y compris physiquement que c'est bien de cette situation qu'elle parle, puisqu'on la voit à l'écran. Donc il y a une espèce de mise en abîme des situations, là, et c'est pour ça que le nombre de vidéos est du coup très important. Donc on reparlera tout à l'heure de comment éventuellement on fait ces recueils-là, et comment, qui on va chercher comme débutant et comme expérimenté pour documenter ces situations.
La seule variante qu'on peut avoir sur cette documentation-là, c'est qu'on peut avoir soit une personne qui réagit seule à l'activité donc, de l'enseignant considéré, soit on peut avoir des réactions en collectif de travail. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, plusieurs personnes qui vont interagir et confronter directement leur point de vue sur une situation. Vous aviez une autre question ?
Pour expliquer ce que tu viens de dire, Simon, qui est très important, parce que c'est une variante aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on met plusieurs personnes à commenter ensemble une situation qui est différente? Parce que ce qui va être différent, c'est qu'évidemment, ils ne vont pas avoir le même point de vue sur la situation. Et que du coup, il va se mettre en place là, déjà, une discussion professionnelle. Et vous voyez bien que cette discussion professionnelle, on va pouvoir l'utiliser comme activateur de la discussion professionnelle qu'on va avoir avec les formés. C'est-à-dire que ce qui va se dire ici entre ces trois débutants, ça va exemplifier, ça va faire sortir des discussions qu'on va pouvoir nourrir avec ces débutants-là qu'on a en formation. Ou les mêmes discussions qui vont avoir lieu entre des chevronnés, on va pouvoir aussi les utiliser. Voilà ici un autre contexte où on a des chevronnés qui parlent de l'activité d'une débutante et qui disent en quoi ce qu'ils voient de cette activité du débutant, pour eux-mêmes, en tant qu'expérimentés, ça leur parle aussi de leur problème de travail d'expérimenté. Et ça, ça a été une des découvertes, hein, on va dire. C'est que là où notre outil, au départ, il était vraiment pensé pour parler des situations professionnelles des débutants, quand on s'est mis à interroger des chevronnés dessus, les chevronnés nous ont dit « Non, mais attendez, ces problèmes-là, c'est parfois des problèmes de débutants, mais c'est aussi parfois des problèmes de métier.
Ah, » C'est l'intérêt de passer d'élargir la communauté progressivement. Si on en reste là, on peut penser que le problème qui émerge de la situation, c'est un problème personnel, un problème individuel. Le fait de le confronter aux autres débutants, ça permet de dire, bah, en fait, c'est peut-être plutôt un problème de débutant plus qu'un problème personnel, voire un problème de métier quand on arrive au niveau des expérimentés. Et c'est aussi un petit peu la tâche des chercheurs de montrer en quoi, finalement, les problèmes qui sont soulevés dans les situations sont souvent structurels et dépendent évidemment d'un certain nombre d'organisateurs de l'activité qui sont vraiment ancrés dans les situations typiques. Bon, alors en fait, l'entrée, on y pense, hein, on pense aussi à une documentation par les élèves, puisqu'on a un postulat selon lequel l'activité elle est co-construite. Donc à partir de là, il y a un intérêt à accéder à la subjectivité de l'élève et pas seulement à la subjectivité de l'enseignant. Mais on a une ingénierie qui pour garder un peu de cohérence aussi simplement didactique, doit garder un certain nombre de régularités. Et notamment, là, l'entrée qu'on a choisie jusqu'à présent, c'est des situations de travail d'enseignants débutants. Mais on a bien sûr pensé à croiser, notamment dans le principe des autoconfrontations croisées, à croiser avec l'activité de personnes expérimentées. Ça peut être, oui, ça peut être leur deuxième ou troisième année. Enfin, la plupart du temps, notamment dans cette situation-là, on n'a que des néo-titulaires. On a changé de... Sur le thème 1 dont je parlais tout à l'heure, on n'avait que des néo-titulaires, sauf pour la dernière activité typique qui était une enseignante plutôt expérimentée, qui avait 7 années d'expérience. Et qui justement, comme elle développait une situation qui était quand même assez typique, il était intéressant de l'intégrer. Sachant qu'on sait bien que les débutants peuvent faire montre de traits d'expertise très précoces, au même titre que des enseignants plutôt expérimentés peuvent, dans certaines situations, se retrouver dans leur travers de débutants.
L'idée, c'est pas du tout, effectivement, pour rebondir sur ta question, de dire « Oh, regardez comme c'est encore grossier ce qu'ils font. » C'est on voit bien qu'il y a des situations, effectivement, qu'on pourrait juger très précaires, mais il y a aussi des situations où ils font preuve de savoir tout à fait intéressant. On aura la discussion tout à l'heure parce qu'on va revenir et il ne faut pas qu'on fasse trop long.
Et je ne voyais pas le retourner.
Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va vous mettre au boulot à découvrir ces ressources-là. Et après, on va revenir et on va essayer de commenter collectivement un peu ce que vous avez vu. Et on prendra une ou deux situations pour commenter ça. Dans quel but? Dans le but de dire, et là, on va peut-être... Fini, si éventuellement tu as encore deux,
non,
trois choses
bon.
Que tu avais prévues.
Non, vas-y.
Donc, l'idée, c'est que vous trouviez dans ce qui est pour l'instant la ressource disponible, que vous trouviez ce qui pour vous est le plus proche de votre centre d'intérêt de travail à vous. Comme l'a dit Simon, vous n'aurez pas le temps de regarder beaucoup plus que 10, 20 vidéos dans l'heure qu'on va vous donner maintenant pour travailler. Donc, on redit, entrer en classe et mettre au travail, aider les élèves, l'aide dans le cadre de la classe,
aider les élèves à travailler et à apprendre, faire classe à cours double, premier degré, faire parler les élèves à l'école élémentaire, premier degré, et faire face aux incidents, plutôt second degré. En sachant que, j'attire votre attention sur, c'est pas parce que vous êtes dans le second degré que les choses du premier degré ne peuvent pas être intéressantes pour vous en formation. Bon. L'idée, c'est que vous regardiez dans le thème qui vous intéresse le plus, pendant une heure, en essayant, enfin on va dire peut-être 45 minutes, en essayant de comprendre cette logique horizontale, verticale et horizontale aussi, de voir, premièrement, vous, qu'est-ce que vous comprenez des situations? Qu'est-ce qui vous donne envie de réagir? Vous dites, oui, mais ça, moi j'aurais envie qu'il y ait ça, qu'il n'y a pas dans la plateforme, et pourquoi on ne parle pas de ça, et comment je peux? Et pour qu'on voit aussi, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que vous organisiez, ou vous participiez, ou vous proposiez avec vos collègues sur votre réseau, sur votre territoire, à partir de ces matériaux? Ça, pour nous, ça n'est qu'un outil. Et un outil, en voilà un, il ne marche pas tout seul. Il ne vaut que parce qu'on est capable de faire avec. Et donc, pour ça, il y a de l'ingénierie à organiser autour. Et donc, si vous voulez bien, ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire, il ne s'agit pas de dire l'outil, il est bien ou pas bien, c'est qu'est-ce que vous, là où vous êtes, vous pouvez imaginer qu'on fasse avec cet objet-là.
La consigne, premier niveau, est-ce que je vois des choses dans les ressources que j'ai regardées? Est-ce que je vois des choses qui me surprennent, des choses que je trouve étonnantes, des choses que je trouve... Alors, s'il vous plaît, juste, on essaye de ne pas faire la liste de tout ce qui manque, qu'on aimerait y trouver et qu'il n'y ait pas, parce que ça va être monumentalement long. Mais on peut quand même en parler, hein, je veux dire, mais il n'y a pas d'interdit entre nous, mais voilà. Est-ce que ces ressources-là, elles parlent de choses du métier qui me parlent? Deuxièmement, est-ce que on peut imaginer en quoi ces objets-là, ils pourraient être des outils qui servent, alors je le dis sans jargon, au développement de travail collectif dans les réseaux et dans les établissements? Et en ce sens-là, je veux juste repréciser le sens de ce que nous faisons ce matin. C'est bien de reprendre tel que je l'ai, on l'a déjà indiqué, les trois dimensions du travail dans nos réseaux d'éducation prioritaire, comprendre à quelles conditions les élèves apprennent, comprendre mieux à quelles conditions les enseignants peuvent être aidés pour enseigner, et troisième niveau, en quoi les questions du pilotage local et académique et éventuellement national peuvent avoir leur mot à dire dans ces questions-là, parce que bien rares sont les moments où on n'est pas obligé d'articuler ces trois niveaux. Hein. Difficulté des élèves, difficulté des enseignants, difficulté des pilotes à faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc on essaye d'ouvrir la discussion comme ça. Elle va être un peu... éparpillé forcément, mais voilà, vous repartez des petites notes que vous avez prises, et puis on essaye de développer quelque chose qui soit un peu progressivement du collectif, nous aussi avec ça. Qui veut bien se lancer? En sachant qu'on n'hésitera pas à faire des... S'il y a besoin qu'on fasse des petits bouts d'extrait vidéo pour regarder telle ou telle chose ensemble, il n'y a pas de souci, quoi. Quelqu'un veut commencer? Pardon.
Je veux bien me jeter à l'eau, commencer à donner les petits éléments vite fait. Donc moi, je me suis plongé sur le thème numéro 2. Donc aider les élèves à travailler
et à apprendre.
J'ai visionné, je sais pas, j'estime à peu près un quart des vidéos. Je suis effectivement stupéfait de la richesse des controverses qu'on peut arriver à mettre en place à partir d'un pauvre extrait d'une minute où, a priori, effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais quand on fait parler les gens dessus, c'est extrêmement foisonnant. Alors justement, c'est ce côté un peu foisonnant des fois qui m'interpelle. Enfin, je m'interroge. Alors, les petites questions, c'est un peu décousu, c'est en vrac. Hein, mais Le texte qui est à côté de la vidéo, le résumé, l'activité, l'analyse et les pistes, on a un texte très riche, très dense, qui contient beaucoup de choses, et un peu, c'est, là, vous n'en avez pas trop parlé, quel est son rôle et quel est son effet? Parce que c'est vrai que le fait de le lire, à un moment donné, dans la réflexion qu'on peut avoir quand on se plonge là-dedans, bah, ça remet des choses en place. Enfin voilà, donc je m'interrogeais sur son statut et son utilité.
Oui, on est parti sur la documentation par les vidéos et on n'a pas parlé de la documentation par le texte. Alors, on ne revient pas sur la documentation des vidéos, vous avez bien compris de quoi il s'agissait. En fait, justement, ces onglets texte, ils servent à justement expliciter la cohérence qu'il y a dans toutes ces vidéos, finalement. Parce que là, vous avez les clés, c'est-à-dire qu'on vous a expliqué cette histoire de communauté de pratique qui s'agrandit progressivement et le but de la controverse par rapport à la situation initiale. Mais l'utilisateur lambda, il n'a pas ces explications-là, elles ne sont pas contenues. Bon, elles sont en germe, mais elles ne sont pas contenues explicitement. Donc, ces ressources textuelles, elles servent justement à faire le lien entre tout ça. Donc le premier onglet, qui s'appelle résumé, il permet de donner des éléments contextuels sur la situation de classe, de façon à ce qu'on ait le plus possible d'éléments pour la comprendre objectivement. Donc c'est plutôt de l'ordre...
C'est à lire avant ?
Pardon ?
C'est à lire avant de voir la vidéo, peut-être ?
Alors ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire qu'en formation, on peut aussi justement faire prendre le parti de montrer la vidéo sans donner les éléments contextuels pour que les stagiaires fassent des hypothèses sur justement le contexte de classe. Donc ça dépend vraiment de l'ingénierie dans laquelle on se place. Si on est dans une perspective un peu auto-formative ou tout du moins de découverte de la plateforme comme vous étiez là, ça peut être utile de le lire avant pour comprendre où est-ce qu'on est avant de regarder la vidéo. Les études sur l'utilisation montrent que souvent les gens lisent en même temps, en fait. Ils font dérouler la classe et en même temps ils lisent pour voir où est-ce qu'ils se situent. Bon, voilà. Donc le résumé, c'est pour les éléments contextuels, pour comprendre où est-ce qu'on se situe vraiment. L'activité, donc, c'est une description qui est beaucoup plus outillée, c'est-à-dire qui mobilise déjà des cadres théoriques. Donc je vais changer de thème pour qu'on prenne un cadre théorique qui soit plus parlant directement. Donc là, vous voyez que l'activité est décrite par rapport à des catégories de recherche. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des éléments contextuels de sens commun, on est sur une description avec des catégories de recherche. Donc, je vous en avais parlé tout à l'heure. Ici, en l'occurrence, on décrit les indices perceptifs qui sont pris par l'enseignant dans la situation, c'est-à-dire ce qui est significatif pour lui à chaque instant. Donc là, dans cette situation, on voit que ce qui est significatif, c'est l'agitation de la classe, c'est le fait que l'enseignant est en train de contenir ses émotions. Donc, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait observables et justement qui sont documentées dans cette partie-là. Bon, donc, activité, une description que je qualifierais d'outillée. Et ensuite, on a un onglet analyse qui est donc l'analyse du chercheur sur cette situation et la mise en perspective par rapport à ce qu'on voit, ce que dit la personne de son activité et ce que disent les pairs de cette activité. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un texte qui subsume un petit peu l'ensemble des contributions qui sont dans les vidéos. Et le dernier onglet, c'est un onglet piste qui permet d'aller plus loin par rapport à la situation. C'est-à-dire soit revenir à la page d'accueil pour avoir le cadre théorique et le cadre d'intervention dans lequel l'étude a été faite. Le glossaire, parce qu'on a fâcheuse tendance à toujours utiliser des mots un peu barbares. Donc les scénarios, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont eu le temps et qui ont vu qu'ils pouvaient aller visionner des scénarios. Donc ce sont des propositions qu'on fait sur la façon dont on peut utiliser les ressources. Voilà, vous voyez sur le mode de l'exercice, c'est-à-dire on a des questions, des petits montages vidéo qui permettent justement de viser un objectif explicite de formation. Les deux derniers points, ce sont des outils d'analyse qui permettent justement de proposer des outils pour analyser de façon cohérente les situations de travail. Est-ce que ça vaut le coup que je les montre ? J'y reviendrai après. Et donc les ressources, ce sont donc toutes les ressources qui permettent d'aller plus loin sur la situation. Donc ce sont principalement des références bibliographiques qui permettent de comprendre l'ancrage théorique dans lequel on se place. Enfin, toutes les publications scientifiques qui ont pu être faites autour de ces travaux, autour de la thématique qui est investiguée. Donc je reviens sur les outils d'analyse, puisque tous les, les gens qui utilisent la plateforme, y compris les formateurs, ne sont pas forcément des spécialistes de l'analyse du travail. Et donc on propose un certain nombre d'outils d'analyse qui permettent justement de faciliter la compréhension, l'explicitation des qui des gestes professionnels ou des catégories à l'œuvre dans la situation. Donc on a par exemple le multi-agenda qui est proposé par Dominique Bucheton, qui est une didacticienne, qui propose 4 catégories principales pour analyser l'activité, qui s'appellent le pilotage, l'atmosphère, je ne les ai plus en tête, et j'arrive pas à les lire. Voilà, donc ce type de catégories qui permettent de désyncrétiser l'activité professionnelle enseignante et de pouvoir en fait analyser de façon un petit peu fine ce qui se passe dans les situations. Donc on a celui-là, on en propose 2 et on en a d'autres à venir. Donc c'est pas mon champ théorique, c'est pour ça que je le connais pas, Patrick. Et on a aussi voilà, le simplex enseignant, donc lui qui nous est proposé par le CRIA et qui décompose l'activité enseignante en plusieurs préoccupations de l'enseignant qui sont plus ou moins opposées. C'est-à-dire, est-ce que dans l'activité que développe l'enseignant, on est plus sur une gestion collective du groupe ou est-ce qu'on est plus sur une gestion individuelle? Donc là, dans la situation qu'investiguer, on voit que la gestion est plus collective. Donc c'est pour ça que vous avez cette branche rouge qui va du côté du collectif. Est-ce que la situation est plutôt confortable d'un point de vue émotionnel, plutôt inconfortable? Est-ce qu'on est plus sur un enseignement, une transmission des savoirs ou est-ce qu'on est plus sur une transmission des valeurs? Est-ce que c'est imbriqué? Parce que là, pour le coup, on n'est pas sur une opposition dichotomique. Est-ce que l'enseignant est plus sur le versant du contrôle des élèves ou est-ce qu'il est plus sur le versant de l'enseignement? Donc là, pour la situation initiale du thème 1, on a un enseignant qui est plus sur une situation très inconfortable avec des élèves très agités, une préoccupation de contrôle qui fait qu'il cherche uniquement à obtenir le silence dans sa classe et absolument pas encore à transmettre des savoirs. Et il est vraiment sur une gestion collective, c'est-à-dire que il va être uniquement dans l'invective vis-à-vis de l'ensemble de sa classe, plutôt que dans une gestion individuelle. Si on rentre plus précisément sur ce thème-là, on pourra peut-être en parler. Voilà pour les ressources textuelles. C'est bon ? Ok.
Alors, ce que je voulais rajouter là rapidement dessus, c'était, bon, premièrement, moi, je trouve que c'est un outil j'ai très envie de l'utiliser. Alors, pour, en gros, comme support de travail collectif, de travail en équipe dans mon établissement, parce que donc on est un certain nombre de profs à avoir une vraie volonté de travailler ensemble, d'échanger, de réfléchir. Et on bute un peu sur les modalités, tout simplement, de concrétisation de tout ça. On aimerait aller se voir dans nos classes, mais c'est compliqué à faire. On aimerait se présenter un peu ce que les uns et les autres font, mais quand quelqu'un raconte ce qu'il fait, ben, ça reste toujours un peu pauvre. Et on a du mal à rentrer en profondeur dans les discussions. Et c'est vrai que je me dis que ça, alors on aimerait se filmer, regarder nos films, faire l'intervision là-dessus, mais ce serait l'idéal, mais c'est lourd techniquement à organiser. Et c'est vrai que je me dis que ça peut être un moyen d'organiser, voilà, d'animer la controverse professionnelle entre nous, et j'ai hâte d'essayer. Alors sur le sujet là, sans rentrer dans ce qui manque, mais une question que je me pose sur le thème justement d'aider les élèves à travailler et apprendre. Alors moi j'ai l'impression dans mon cheminement personnel qu'une des choses qui m'avait permis de franchir des pas un peu importants, ça a été lorsque j'avais l'occasion de perdre du temps à observer les élèves travailler en fait. Et que quand j'étais pas dans la pression de la classe ou etc., je pouvais voir des choses auxquelles je n'avais pas accès d'habitude et que c'est de voir ces choses-là qui m'ont fait faire des pas. Et c'est vrai que là-dedans, dans ces ressources-là, en fait, il n'y a pas, ou je les ai pas vues, de moments où on voit les élèves en situation de travail et où on peut essayer de comprendre ce qui se passe entre eux, au-delà des interventions, sans les interventions des enseignants. Et d'ailleurs, dans le scénario d'utilisation de ces ressources-là qui est proposé, à un moment donné là-dessus, dans le scénario pédagogique, donc il y a des moments où on propose de discuter sur les vidéos, et il y a un moment où il y a un apport, alors je sais plus où est-ce qu'il est là, où c'est des textes de Bautier et Rochex qui sont, j'imagine, où on voit des élèves parler un peu de ce qu'ils vivent, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans la formation. Et c'est vrai, alors est-ce que c'est dommage, j'en sais rien, que ça soit pas présent parmi les vidéos fourni, alors que c'est quelque chose, à mon avis, important pour aider à avancer.
ce qui est vraiment intéressant, là, c'est que tu nous ouvres une discussion que je vais profiter de ton intervention pour l'ouvrir, mais on ne pourra pas beaucoup la traiter. C'est que toutes ces recherches qui se centrent sur l'activité de l'enseignant, on va dire autour de la didactique professionnelle. Il y a eu un certain nombre de critiques d'un certain nombre de gens qui disent « Bon, ben, vous êtes gentils à ne regarder que le travail de l'enseignant, mais enfin, ce qui nous intéresse surtout, c'est le travail de l'élève et de comprendre pourquoi l'élève n'apprend pas dans une relation avec, on va dire, ce qu'on appelle rapidement la didactique. C'est-à-dire le lien entre l'activité de l'élève, le savoir à enseigner, la situation organisée par l'enseignant. Donc je profite sans être là trop longtemps pour dire que s'il y a une chose qu'on a apprise dans Neopass, dans la fabrication de l'outil, c'est que en permanence, ces deux dimensions sont totalement tissées, imbriquées. Si tu peux montrer juste dans aider les élèves, dans le thème qui s'appelle aider les élèves à apprendre, si vous allez par exemple sur l'aspect faire des cours de méthodologie. Donc on a une enseignante qui nous parle de son vécu sur les cours de méthodologie. Et on a des débutants qui disent, ben voilà, est-ce qu'on peut organiser des dispositifs dans lesquels on va faire des cours de méthodologie? Et lorsque on fait parler les expérimentés de ça, si vous regardez, est-ce que tu peux zoomer juste qu'on regarde les titres de ce que disent les collègues? Alors vous voyez, on a scénarisé hein, aussi des choses comme ça. On voit bien dans ces discussions-là et dans ces controverses que ce qui va être au cœur de la controverse des enseignants, c'est les conceptions qu'ils ont sur l'apprentissage, sur l'enseignement, et notamment sur la didactique. Donc, pour aller dans ton sens, on voit que c'est une des limites actuelles de la plateforme, que de ne pas rendre explicite ce que je suis en train d'expliciter là, c'est-à-dire, ça n'est pas un outil qui est un outil de gestion de classe, comme un certain nombre de gens laissent croire qu'est Neopass. C'est-à-dire, ça n'est pas centré sur voilà le geste qu'il faut que tu fasses pour que tes élèves apprennent, mais c'est un outil qui a l'ambition de scénariser les articulations entre didactique et didactique professionnelle. À ce sujet, si vous travaillez sur ces questions-là et que vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, comme tu vas le faire si tu veux bien Simon, travail enseignant 21e siècle, vous trouverez les traces d'un colloque qu'on a organisé il y a 2 ans à Lyon qui a traité explicitement ces questions-là. Et vous avez, enfin, la force de ce colloque, c'est que ça nous a permis d'avoir les meilleurs spécialistes de ces deux disciplines, hein, c'est-à-dire à la fois de l'analyse du travail, mais aussi de la didactique, et vous disposez, dans l'espace que Simon est en train de vous montrer, de toutes les vidéos de ces chercheurs-là, qui sont vraiment les plus éminents chercheurs français, francophones sur cette question-là, à la fois, et les témoignages sont tissés, hein, et vous avez des gens qui sont des didacticiens et des gens qui sont des spécialistes de la didactique professionnelle, d'analyse de travail, d'analyse de l'activité. Donc si vous voulez creuser ces questions-là de manière un peu théorique, je vous invite à consulter ces ressources parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre espace disponible qui permette de tisser les questions que tu poses là, hein, en sachant geste professionnel, faire classe, enseigner versus faire apprendre, didactique, etc.
Et pour finir là-dessus, il y a aussi, enfin, il y a tout simplement cette question de l'entrée, c'est-à-dire que très souvent, et à juste titre, on nous dit cette dimension-là est occultée, cette dimension-là est occultée. Mais pour des raisons de cohérence du dispositif et de logique d'appropriation des personnes, on est obligé de faire des choix souvent à contre-cœur, notamment sur la question de l'activité des élèves qui est toujours fondamentale. Mais voilà, on est obligé de restreindre notre objet à certains, seulement certaines dimensions de l'activité.
Allez, d'autres interventions, réactions, questions préoccupations qui ont été les vôtres, mais vraiment, voilà, n'hésitez pas à ce qu'on change de registre et qu'on reparte vraiment de votre
particulier. Donc nous, on était en train de réécrire le projet d'établissement pour des histoires de conflits, de changement de chef d'établissement et ainsi de suite. Et parmi les, donc on a essayé d'impliquer un maximum l'équipe enseignante sur les temps de réflexion et ainsi de suite. Donc on est en plein travail. Une chose qui émerge de manière forte, c'est les temps de parole et l'organisation de temps de parole au sein des équipes. Et moi, j'ai essayé de me positionner ce matin sur quelle médiation m'apporte cet outil-là. Et en particulier, moi, je suis enseignant spécialisé, donc aider les élèves, je suis allé assez spontanément dessus. Et j'y ai trouvé un ensemble de choses intéressantes. Et pour revenir justement sur les témoignages d'experts et la façon dont ils sont synthétisés dans les titres, ça me semblait justement quelque chose d'intéressant comme un moyen d'amener les collègues à réagir par rapport à ces éléments-là. Non pas de montrer les vidéos forcément, mais voilà, comment tu réagis quand tu lis, je sais plus les trucs, voilà. Et enfin, moi, j'étais clairement parti dans l'idée de trouver une médiation pour organiser la parole des enseignants qui auraient envie à certains moments de travailler non pas sur l'échange de pratiques, parce que ça c'est protocolisé, c'est pas la question, mais qu'au sein de l'établissement on puisse trouver des temps de parole entre équipe de direction, enseignants et voilà.
Ah, ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire par l'entrée. C'est ce que je disais avec ce dont on parlait avec la collègue du CNDP tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaye de toucher les gens par communauté de pratique. C'est-à-dire qu'on essaye de dire, est-ce que vous, enseignants, ça vous parle? Est-ce que vous, préfet des études, ça vous parle? Est-ce que vous, Cordozep, ça vous parle? Mais on essaie aussi d'avoir la porte équipe pédagogique. C'est-à-dire qu'on a envoyé au mois de décembre un mail à tous les chefs d'établissement des établissements publics du primaire et du secondaire, donc directeur d'école et du secondaire. Et l'idée étant de dire, si vous arrivez justement à ouvrir des espaces de concertation de vos équipes dans vos établissements, peut-être que ceci peut jouer le rôle de point de départ pour investiguer une problématique qui vous intéresse et pourquoi pas la refonte d'un projet d'établissement notamment. Et c'est assez compliqué, mais c'est vrai que quand ça réussit, il nous semble que ça peut être vraiment un outil intéressant pour se faire.
Et j'insiste juste sur ce que tu as dit sur la scénarisation. Je prends cet exemple-là, par exemple, c'est dans la partie aider les élèves, les expérimentés qui parlent de la question du travail personnel et des devoirs. Bien, si vous regardez uniquement les extraits là, vous voyez qu'on a organisé un espace qui est lui-même un espace qu'on essaie de rendre mieux, qui fasse du sens avec le texte. Et en gros, ce que nous disent les experts, c'est que traiter de la question des devoirs, c'est traiter par exemple toutes ces questions-là. Et comme on arrive à scénariser des points de vue de collègues qui sont différents, voire antagonistes, du coup, moi, ça me fait plaisir que tu dises ce que tu dis, parce que c'est vraiment un de nos objectifs que de scénariser, y compris là, des unités de sens, à travers un travail très difficile qu'on fait sur ces petits textes bleus surlignés, qui donnent à voir comment tel petit bout d'extrait ridicule qui dure une minute n'est pas là dans un cirque organisé, mais dans une espèce de tentative de donner de la cohérence sans réduire ça à de la prescription de bonne pratique. C'est très complexe à faire pour nous, mais si jamais les gens qui l'utilisent ressentent ça comme étant un espace possible pour ouvrir du travail dans les conseils pédagogiques, dans les conseils des maîtres, dans les réunions de bassin, dans les structures, on sera très content.
Bon, ce qui me semblait justement intéressant, c'est qu'il y avait une grande variété de propositions qui permettaient à chacun, quel que soit son positionnement au sein de l'établissement et au sein de l'équipe, à savoir ceux qui ont envie de travailler ensemble et ceux qui sont sur une posture un peu archaïque, on va dire, de se retrouver malgré tout là-dedans et à travers cette médiation-là qui est quand même, dont la validité est difficile à mettre en cause, au moins en première intention, de pouvoir effectivement se retrouver par moment et de pouvoir échanger, de se rendre compte que notre vécu, on le retrouve forcément là-dedans et c'est pas notre vécu propre, quelle que soit la caractéristique de l'établissement.
C'est pas que ici qu'on a ce problème, c'est partout. Reprendre ce que tu disais hier et qu'on disait hier dans la question de c'est des problèmes de métier, c'est pas des problèmes de personne. Dire que c'est pas juste les anciens contre les modernes. C'est dire aussi qu'on peut proposer des micro-évolutions et qu'il n'y a pas besoin de révolutionner sa pédagogie pour pouvoir avancer. Et surtout que par rapport à ces différentes questions-là qui sont posées, il y a une espèce de complexité de la parole du métier qui nécessite d'être discutée. Et ça, par exemple, sur cette question des devoirs, lorsque dans un établissement, on se rend compte que la question, c'est pas pour ou contre les devoirs, et que si vous écoutez Shérif, il dit, si vous écoutez Guilhem, et qu'il dit, si jamais il y a quelqu'un qui me dit qu'en ZEP, il faut supprimer les devoirs, celui-là, c'est celui qui veut suicider les élèves de ZEP, parce que ça, il y a des élèves de ZEP qui réussissent, et pour les préparer au lycée, comme disait Vargas hier, quand ils ont le brevet, il va bien falloir qu'ils fassent du travail personnel, etc.
et bien ça, c'est en prise directe avec ce que les collègues peuvent dire. Maintenant, c'est compliqué à manipuler par les formateurs parce qu'effectivement, il faut aussi que le formateur il arrive là avec une posture un peu modeste sur je vais vous expliquer ce qui est bon ou pas bon sur la question des devoirs.
Et c'est bien le deuxième registre de la médiation de cet outil-là, c'est que justement le formateur ne devient plus qu'animateur de l'histoire et peut se mettre complètement en retrait et sans avoir à se poser la question de la légitimité de sa propre parole. En tout cas, moi, mon positionnement par rapport à ça, il est assez clair. Donc moi, je suis directeur de SECPA. Vous imaginez que dans un collège, c'est pas toujours facile que le directeur de la SECPA, il soit celui qui accompagne des profs de collège, et ça me permettrait, puisque c'est clairement un petit peu la dimension qui m'a été proposée par l'ensemble de l'équipe de direction, d'organiser cette parole-là, ça me permettrait justement de rester sur le registre de l'animateur, et puis c'est écrit au tableau, c'est pas moi qui le dis, pour faire dans la formule rapide.
Je rejoins un peu le collègue pour utiliser NeoPass en formation, et me rendre compte justement que NeoPass permet justement de créer la communication et de travailler sur les dilemmes professionnels. La question que moi je me pose en tant que formateur, je vois bien évidemment le changement de posture que le formateur a dans l'utilisation de NeoPass. Et justement, c'est comment, à partir de l'identification de ce dilemme professionnel, et comment justement les collègues s'en emparent et comment ils libèrent leurs paroles et puissent verbaliser leur interrogation. Moi, en tant que formateur, après, je me dis comment techniquement, comment intellectuellement, comment au point de vue éthique, le formateur accompagne les collègues pour trouver des solutions possibles, c'est-à-dire d'ouvrir ce champ des possibles. Donc là, on est sur une autre phase, c'est celle du rôle du formateur quand il utilise le NeoPass. C'est-à-dire que l'on crée la discussion, on crée la controverse, et justement, qu'est-ce qu'on en fait au point de vue local? Et au point de vue du contexte d'établissement, c'est-à-dire comment on va trouver des solutions collectives, des pistes de résolution. Et là, moi, je trouve que le formateur, il est pertinent parce que justement, il joue l'interface entre le terrain et le monde de la recherche. Et justement, on a pris Guillemette, et moi c'est une vignette qui m'interpelle avec deux autres vignettes plus particulièrement sur le site. Et justement, quand elle le dit, je peux pas me diviser en 25. Et ça, dans notre professionnalité d'enseignant de toute culture professionnelle, hein, que ce soit du premier degré, du second degré, du lycée professionnel, du lycée général, on a été tous confrontés à ce questionnement. Et là, moi je me dis que le rôle et la posture du formateur, c'est de pouvoir trouver avec les collègues, de manière collaborative, sur des pistes possibles à mettre en place, justement, et en s'appuyant sur la recherche et comment on peut passer du monde théorique à la praxis. Voilà.
Et là encore, c'est une critique qui a été faite, qui a été vachement forte par un certain nombre de gens sur dire « Ah bah oui, ah bah, vous ouvrez la controverse, mais après, qu'est-ce qu'ils en font les gens par rapport à ça ?» Et là, la question qui est posée, ça renvoie à ce qu'on disait hier sur la question des recettes, voire des micro-recettes qui permettent de débloquer quelque chose. Si on prend que cet exemple-là, mais il y en a plein, il y a des tas de petites bouts de phrases de collègues qui sont « Comment j'organise la fin de la séance pour que la fin de la séance soit au service, par exemple, de l'apprentissage ou des devoirs. Comment est-ce que, dans les devoirs, par exemple, je vais donner des questions ouvertes sur lesquelles je vais pouvoir refaire. Enfin, il y a des tas de petits bouts de pistes sur lesquels on peut éventuellement se reprojeter après, et en disant, bah, tiens, est-ce que nous, dans notre conseil pédagogique, dans notre réseau, etc., on peut essayer de voir ce qui se modifie si on fait cette toute petite modification. Y compris, il y a des choses sur la correction qui sont alors vraiment des trucs basico-basiques, hein, sur comment tu te débrouilles avec la correction du travail que tu donnes, qui pour le coup peuvent être des leviers micro de dynamique collective,
ouais. Il me semble. Oui, tout à fait. Et puis, lorsqu'on travaille sur NeoPass en formation et qu'on essaye de développer des pistes de possibles, on s'aperçoit, nous, quoi, en tout cas moi, pour l'expérimenter dans le cadre aussi des actions formation recherche, je me rends bien compte que mes cadres théoriques vont être en appui pour aider les collègues à éventuellement trouver des pistes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que on va parler vraiment du métier, du cœur du métier, parce que là on est sur les apprentissages et on va être sur l'essence du métier, c'est-à-dire comment moi, enseignant dans ma classe, je peux faire pour ne pas être dans le dilemme de me diviser en 25. Il faut que je fasse cours à tout le monde, mais quel appui, qu'est-ce que je peux apporter? Et là, on peut se référer à la psychologie cognitive, on peut se référer à différents cadres théoriques pour essayer d'apporter des solutions. Et les solutions, elles vont émerger au point de vue local. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est les équipes qui vont s'en emparer et elles vont pouvoir échanger et trouver leurs propres solutions. Et on ne va pas être sur quelque chose de transmissif, mais plutôt de collaboratif. Et donc, en tous les cas, pour moi, formatrice, c'est un aspect assez novateur que je n'avais pas il y a 3 ou 4 ans. Et le fait de l'expérimenter avec des collègues dans certains établissements, on s'aperçoit de l'enrichissement mutuel entre enseignants, mais aussi entre formateurs et enseignants.
Alors, comme l'a dit Patrick, hein, c'est un outil qui ne vaut que par l'usage qu'on en fait. Et pour dire à quel point ce qui est en train d'être dit est en cohérence avec la visée théorique de notre outil, c'est que effectivement, on n'est pas sûr. Voyez les bonnes pratiques, évidemment. Voyez les bonnes pratiques. Essayez de les incorporer dans votre quotidien. On est sûr. Voyez des pratiques et essayez, vous, dans vos espaces, de déterminer quelles sont les pratiques, ce qu'on appelle, nous, les pratiques robustes, c'est-à-dire les pratiques qui fonctionnent, mais sous certaines conditions. Et ce sont ces certaines conditions d'activité qu'il faut élucider et qu'il faut essayer de discuter et de partager. Et ce qui fait qu'on passe de la bonne pratique à ce qu'on appelle, nous, plus couramment, un espace d'action encouragé. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut être efficace dans telle ou telle, dans telle condition d'exercice. Mais tout ce travail-là, effectivement, il n'est pas donné. Et il a à faire dans les espaces.
Juste une question par rapport à, juste dans le même ordre d'idée, comment vous renvoyez le point de vue des chercheurs aux différents acteurs qui participent justement à la construction des petites vidéos? Est-ce que, par exemple, il y avait un exemple où le chercheur avait un point de vue quand même très, très, pas différent, mais très, très, j'ai trouvé assez rigide, mais pas...
Oui.
Ça me paraît, mais j'ai trouvé ça assez rigide par rapport au point de vue du jeune, qui lui était dans une analyse de la gestion de classe. Elle était déjà dans la dimension savoir et le fait que sur les antonymes, faire parler les élèves en classe, à l'élémentaire, voilà. Sur les antonymes, et à un moment, le chercheur dit cette dame, Dominique Bucheton. Voilà.
Alors. Typiquement, hein, ce qui est intéressant, on ne va pas répondre dans le détail parce que ça nécessiterait des explications qui nous feraient perdre du temps, mais cette confrontation-là, on s'autorise à la poser dans Myopas. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez 3 universitaires. Vous avez Dominique Bucheton, qui est à la fois une didacticienne et quelqu'un qui travaille sur la question de l'activité, voire le modèle qu'on a présenté d'elle tout à l'heure. Vous avez Michel Grandati, qui est un didacticien du français. Et vous avez Philippe Vérune, qui est quelqu'un qui travaille dans les logiques du cours d'action de Thoreau, mais on va dire qu'il est plutôt du côté de la didactique professionnelle. Bien. Nous, on va scénariser ces 3 points de vue-là, et au risque parfois qu'un certain nombre soient des points de vue effectivement normatifs. Mais ça, c'est un peu la rançon de... si on veut faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire scénariser la discussion entre les différentes disciplines de recherche... On est obligé d'accepter cette idée-là, qui fait qu'à un moment donné, tel témoignage, en formation, on va dire « Non, mais l'autre, là, il se prend pour qui, lui ? Hein ? Il se prend pour qui, ce chercheur, là, pour nous donner des leçons ?» Mais il parle avec son point de vue. Et si vous regardez dans les nouvelles ressources, comme par exemple celle qui s'appelle « Faire face aux incidents », il y a effectivement... deux types d'interventions que vous trouverez, c'est-à-dire des gens qui sont effectivement dans une vision compréhensive du travail, en disant « bah oui, je comprends pourquoi il fait ça et je vous explique pourquoi il le fait », et d'autres qui sont plutôt dans « il ferait mieux de faire comme ça, ça serait plus efficace ». Mais voilà, on accepte aussi de scénariser ça parce que ça fait partie de ce qu'on donne à discuter, soit à la personne qui regarde ça chez lui tout seul, soit au groupe qui va travailler ça en formation. Et on n'est pas surtout pas nous normatifs. En tout cas, si on apparaissait comme normatif, là, dans le point de vue des chercheurs, comme un point de vue surplombant, à mon avis, on aurait tort.
Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les témoignages des chercheurs sont bien mis sur la même ligne que les autres. C'est-à-dire qu'on ne fait pas parler les enseignants et puis à la fin, quand ils ont raconté leur petit truc d'enseignant, à la fin, on va mettre le chercheur qui, lui, a tout compris et qui va expliquer la vie à tous les autres. Non, c'est un témoignage, ce qui est mis sur la même ligne et qui est simplement un éclairage différent. C'est-à-dire de quelqu'un qui a travaillé sur la question et qui a peut-être une vision simplement plus large. Voilà, c'est tout.
Comment c'est renvoyé aux jeunes, c'est ce que je veux savoir surtout. Est-ce qu'il l'entend ce point de vue ou jamais, même sur ce que vous mettez dans la démarche qui rentre dans la démarche, qui servent à ça. Prenons le cas de Magali. Est-ce que Magali a entendu le point de vue de Jean-Claude Mignon?
Voilà. Est-ce que les vraies personnes qui sont là, ils ont vraiment entendu ça? Alors ça, c'est un tout petit truc de conception, c'est que on montre toujours aux gens ce qui va être scénarisé autour de leur propre activité. Et donc, les gens qui nous donnent l'autorisation de mettre le bon à tirer final, ils voient toujours comment ça va être quand ça sera fini, puisqu'on a une plateforme de test qui est accessible. Et donc, ils voient effectivement ce qu'on dit de leur propre activité, si c'est ça la question. Je n'avais pas compris. Après, ce qui est sûr, c'est que chacun des formateurs en situation, il va aller piocher dans les différentes ressources ce qui va lui sembler nécessaire. Et on sait qu'il existe aussi des manières d'utiliser Neopass que nous, on trouve contre-productives. C'est-à-dire des gens qui, en formation, prennent tel bout en disant « Ah ben, voilà, vous voyez ce qu'il faut pas faire ?» C'est ça. Et ben, voilà. Tu veux vous expliquer maintenant ?
Voilà. Ne le faites pas.
Donc, on a des preuves, des noms et tout de gens qui font ça. Bon, on n'y peut rien à partir du moment où c'est en usage professionnel libre. Nous, on ne demande pas de certificat de validation pour pouvoir avoir le droit d'utiliser Neopass.
Alors, si on prend l'exemple de Guillemette, pour ceux qui avaient... Enfin, c'est le coût de l'aide au travail personnel. Moi, ce qui est remarquable, c'est quand on voit son analyse de sa vidéo au départ et 5 ans plus tard. Donc, c'est énorme la différence dans son discours. Et en lien avec ce que vous venez de dire, on a vraiment l'impression quand même qu'elle a... Enfin, la question, ce serait, qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 ans?
Enfin, c'est ce que nous, on appelle le développement professionnel. Hein. C'est ça qu'on scénarise. C'est-à-dire qu'on scénarise cette idée, et merci de nous permettre de dire ça, parce qu'on ne l'a pas du tout dit, que les gens ne sont pas prisonniers de ce qu'ils sont à un moment donné. Et que toute notre... Et Simon a bien insisté là-dessus, on essaie de suivre les personnes. Et quand on a la chance d'avoir une personne qu'on va suivre pendant 5 ans, et qu'on va scénariser... Cette personne-là, 3 mois plus tard, 1 an plus tard, 5 ans plus tard, on va montrer qu'il y a du développement professionnel. Et que donc, chacun, je vais finir à ta question, je pense avoir bien compris ce que tu veux dire, chacun n'est pas prisonnier de ce qu'il est à un moment donné, et il peut avancer dans le travail. Deuxième question, c'est à quelles conditions on se développe dans le travail? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens, on se dit, mais est-ce qu'il a appris quelque chose celui-là? Et Simon a bien insisté sur le fait que il n'y a pas de relation directe entre le nombre d'années d'expérience et l'expérience. Ça, c'est une autre question théorique, mais là, pour laquelle on a tous de bonnes raisons de savoir qu'un bout de quelque chose, et nous, on n'est pas experts là-dessus, mais en tout cas, on y travaille, c'est à quelles conditions les professionnels font expérience. Et ça, nous, on a quelques idées sur la question, c'est-à-dire, ils vont faire expérience... S'ils ont l'occasion d'avoir des espaces collectifs de controverse sur les dilemmes qu'ils rencontrent dans leur travail, et qu'ils ne vont pas fabriquer des mécanismes de protection pour se dire « ça, j'y arrive pas, et c'est ma peau ou eux ». Et donc, voilà.
Oui, enfin, j'ai bien entendu, donc, mais pour Guillemette, vraiment, ce qui est remarquable, c'est que ce qu'elle dit 5 ans après, c'est vraiment en lien avec ce qu'on voit de ce qui est dit par les chercheurs, par exemple. Enfin, il y a du vocabulaire, il y a des mots qu'elle utilise à ce moment-là, une analyse qui est en lien quand même avec ce que les chercheurs en ont dit. Voilà, c'est simplement, hein, c'est bien entendu qu'on évolue. La question précise, c'était qu'est-ce qui s'est passé pour elle dans les 5 ans? Est-ce qu'il y a eu des formations spécifiques? Est-ce que, voilà.
Je veux juste quand même en parler pour ce groupe-là, c'est que ce groupe qui travaille avec Christine Félix et Frédéric Soja à Marseille, c'est un collectif en fait. Et les expérimentés que vous voyez ici, c'est des gens qui, sous la responsabilité d'une équipe de chercheurs, ont développé un collectif de travail accompagné par la recherche, comme les collègues nous en parleront éventuellement cet après-midi. Et donc, ce qui fait que ce groupe, à mon avis, a une capacité à parler du métier assez importante, c'est qu'il a l'habitude de le faire, et que en cela, ils sont à peu près représentatifs de ce qu'on pourrait imaginer que fassent les nouvelles esprits dans la relation avec l'établissement formateur. C'est-à-dire que quand on parle d'établissement formateur et de collectif de travail dans les établissements accompagnés, eh bien on voit bien la force et la puissance que ça a, parce que là on a les preuves. C'est-à-dire que c'est des instituts, des profs normaux, ils ne sont pas formateurs, ils sont pas. Enfin, il y en a des formateurs, mais c'est des profs, quoi. Et on voit bien qu'au-delà des différences qu'ils ont, ça ne les modélise pas dans leur genre professionnel, ils restent avec des styles différents. Mais la capacité de développement professionnel à partir du moment où on organise un milieu pour pouvoir vraiment parler du boulot, ben voilà. Ceci dit, ça ne règle pas tout. Hein, parce que,
sur cette question du développement professionnel, je vais essayer de dire en deux minutes ce que d'habitude on raconte en deux jours. Mais pour reprendre le vocable de l'ergonomie avec les observables et la subjectivité, c'est-à-dire le cheminement réflexif que fait la personne sur son parcours. Dans le développement professionnel, ces deux dimensions, elles sont maillées, elles sont finement imbriquées. Et ici, on a, par exemple, dans le cas de Guillemette, le 5 ans plus tard, il permet surtout, par l'entretien, de voir le chemin réflexif que Guillemette a fait sur sa posture, sur ce que c'est qu'aider les élèves, sur ce qu'il est possible de faire et pas possible de faire dans la réalité du travail. Et dans le thème 1, on a aussi, donc thème 1, activité 1, Romain, donc l'enseignant qui a les bras croisés dans l'activité mise à l'épreuve. On a 5 ans plus tard, en l'occurrence, c'est pas 5 ans plus tard, c'est 6 mois plus tard, les observables qui se sont transformés, c'est-à-dire dans la même situation typique, c'est-à-dire l'entrée en classe et la mise au travail, comment est-ce que 6 mois plus tard, il s'y prend en termes de gestes professionnels observables? Donc là, même sans parler du chemin réflexif que lui a fait, qui est donné aussi dans l'autoconfrontation, on peut directement voir comment est-ce qu'il s'organise d'un point de vue activité, c'est-à-dire corporel, geste professionnel, interaction avec les élèves, et comment est-ce que ça a transformé son activité. Donc, le développement professionnel, il y a cette dialectique qui est très très importante à saisir, qui est comprendre le travail et transformer le travail. Et on a des développements professionnels qui se font dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire, je comprends mon travail d'une certaine façon, parce qu'on a travaillé en formation, j'ai travaillé sur ma propre activité et ça m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et donc, de ce que j'ai compris, je transforme mon activité. Exemple, Guillemette, qui par le chemin réflexif qu'elle a fait, change sa façon d'intervenir. Et on a aussi des gens qui, par la transformation de leur intervention, comprennent de nouvelles choses sur leur travail. Typiquement, Romain, à qui on a dit d'une certaine façon, tiens, peut-être que tu devrais changer ta façon d'accueillir les élèves, peut-être que tu devrais essayer de faire telle chose, en transformant sa façon d'agir, il prend conscience d'un certain nombre de choses.
C'est-à-dire, tout simplement, là, pour l'illustrer, hein, il a vu, dans le travail qu'on a mené avec eux, il a vu ce collègue-là qui faisait l'accueil à la porte, et du coup, on revoit Romain, 6 mois plus tard, qui fait l'accueil à la porte, à sa façon, et qui va modifier son milieu de travail, et du coup, en modifiant son milieu de travail, comprendre des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension préalable, théorique. C'est la modification du milieu qui crée la modification de la compréhension de la situation.
Et là, dans ce cas précis, la connaissance fondamentale que Romain transforme, c'est l'idée qui passe de l'idée selon laquelle il faut... Très bien, ça fait deux fois que je viens pour rien. Il passe de l'idée selon laquelle il faut attendre le silence pour pouvoir mettre les élèves au travail à, en réalité, c'est en mettant les élèves au travail qu'on obtient le silence. Et cette idée-là, on ne lui l'a pas mise dans la tête par du bourrage de crâne. Il l'a lui-même construite à partir de la transformation de son activité, en faisant l'expérience d'un autre mode d'intervention. Et c'est très important, et c'est difficile, mais c'est très important de comprendre que le développement professionnel, c'est pas tout dans la tête, quoi. C'est pas, il faut que tu comprennes tout ça pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre. Ça, c'est le modèle un petit peu classique. Il y a aussi faire l'expérience de façon alternative d'agir qui permet justement de prendre conscience de nouvelles dimensions du travail.
Une expérience qu'on appelle, je ne maîtrise pas bien, mais en tout cas j'en ai entendu parler, je l'ai vu à l'œuvre, ce qu'on appelle les GEAS, les groupes d'analyse de pratique, et les APP également. Ils ont utilisé ce dispositif depuis pendant 3 ans à l'UFM en Guadeloupe. Et c'est vrai que bon, les jeunes étaient mis en groupe de réflexion, échangeaient sur des pratiques à partir de séances qu'ils avaient menées, etc. Et bon, c'est un peu dommage parce que j'ai pas assez de recul sur ces expériences-là pour dire. Mais je me demande qu'est-ce qui peut être, si vous les connaissez, qu'est-ce qui peut être près ou éloigné de ce qu'on vit là.
Ce qui est partagé, c'est que le travail qui est mené dans les GA, c'est un travail qui est fabriqué à partir du travail de Pierre Vermeer sur un certain nombre de points de vue qui sont globalement dans la didactique professionnelle, l'analyse du travail, etc. Après, les méthodes, les outils, les façons de faire, effectivement, sont différents et peuvent amener, après, des usages plus ou moins différents, des compromis plus ou moins différents, etc. Et après, voilà, on n'a pas le temps ici de rentrer dans la controverse sur pourquoi il peut y avoir dans telle ou telle forme de pratique, d'analyse de pratique, des difficultés. Mais tout à l'heure, quelqu'un a dit, les analyses de pratique, c'est bien, mais des fois, quand on fait de l'analyse de pratique, on reconstruit un peu la vie et du coup, on ne sait jamais vraiment de quoi on parle. C'est assez compliqué. Donc, on n'est pas là pour critiquer les analyses de pratique et les GAS, qui, lorsqu'ils sont animés par des bons connaisseurs de ces choses-là, font des choses remarquables. La question, c'est comme tout, mais Néopas n'échappe pas à cette critique. C'est-à-dire que peut faire un mauvais formateur de Néopas autant de conneries que de n'importe quel autre outil. Juste, je voudrais vous faire écouter, parce que c'est pas parce que Geekmet a avancé qu'elle a résolu les problèmes du métier. Vous faire écouter quelque chose qu'on a mis dans la plateforme, mais qui ça a suscité chez nous, à l'interne, une grosse discussion pour savoir si c'était plateformable, parce que ce qu'elle va dire n'est pas du tout politiquement correct. Est-ce qu'on peut accepter de donner des choses comme ça à entendre à des gens ?
T'as pas le son.
C'est dommage.
C'est ton casque.
C'est censuré, en fait.
J'essaie d'ouvrir le plus large possible, mais face à des cas, il y a des élèves qu'on accepte progressivement de laisser sur le banc du chemin.
Il y a des élèves.
Parce que sinon, ça demanderait trop d'énergie. Ça demanderait de s'attaquer à des choses qui nous dépassent, à des problématiques familiales, à des problématiques cognitives. Et là aussi, j'ai avancé. Je ne peux plus les reprendre. Je fais de mon mieux. J'essaie d'ouvrir le plus large possible, mais face à des cas trop compliqués, je peux pas. Donc si je peux pas, j'accepte.
Est-ce que par ailleurs, donc tu acceptes, est-ce qu'on peut parler d'une forme de renoncement ou est-ce que, oui, pour certains.
Ah, je pense.
Tu irais jusqu'à dire que tu renonces.
Ben oui, puisque ce que je mets en place, je encore une fois, c'est alors certains, par exemple, je pense à un élève là. Si je le fais copier, ça peut aller. Sauf qu'il va quand même tout le temps me solliciter. Donc même s'il est à ma gauche, c'est moi qui me sollicite, il faut que je gère là. Donc les moments où il y a des fois où je peux, et puis il y a une fois où je lui dis, écoute, j'ai vu que tu avais fait des efforts, mais c'est quand même pas assez, parce que là tu me sollicites trop et je peux pas gérer les autres. Donc je vais te demander d'aller dans la classe de ma gauche, avec le travail en groupe, parce que je peux pas. Et je leur dis, c'est pas possible, je peux pas.
Donc tu renonces, mais à la fois, il y a quand même dans l'établissement des moyens d'action pour prendre en charge.
Ben non, parce que pas là, le petit va être dans la classe de ma collègue. Et puis...
Donc là, c'est brutal. Hein. Et quand on montre ça à un expérimenté qui pourtant la connaît...
Je vais y arriver, mais pas pour le moment. Voilà.
Moi, je suis d'accord avec toi, le dire, mais pas aux élèves. On ne peut pas dire à un élève... je suis désolé, un élève qui a le dit, hein, il a fait des efforts, tu as fait des efforts mais pas assez, donc je ne peux pas, tu vas aller finir le travail dans la salle à côté. Ça c'est pas possible, un gamin qui fait des efforts, tu peux pas lui dire, c'est bien, mais c'est pas assez, je te mets à côté. Comme tu disais tout à l'heure, sortir de la classe, c'est vraiment un geste fort et pas plus fort que ça. Il fait plus fort qu'un rapport qu'appelaient les parents. Quand tu le sors de la classe, c'est vraiment que tu as passé, comme tu dis, la dernière marche, elle est franchie là. Donc dire à un gamin qui fait des efforts, va à côté parce que je peux plus. Là, ça, c'est pas tolérable. Donc, tu peux le penser, tu peux le parler entre collègues, mais dire à un élève, non, moi, je n'y arrive pas, moi, ça, tu peux pas le faire. C'est...
Donc, vous voyez, vous avez déjà entendu cette discussion dans votre établissement, forcément. Hein, c'est-à-dire, Et nous, on ose la scénariser. On prend un risque en disant ça. C'est-à-dire qu'il y a un inspecteur qui vient nous voir et dit « Non, mais vous êtes cinglé ou pas ?» Dans un truc qui a une vocation institutionnelle, vous dites « On scénarise un propos de prof qui dit « Moi, j'accepte qu'à un moment donné, il y a un élève, c'est lui ou moi. » Et vous voyez la controverse qui s'organise. Et la controverse, elle va se poursuivre. C'est-à-dire que, ici, on va voir...
En fait, dans ce que tu dis, moi, j'ai...
On va voir... L'explication finale entre eux, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils voient ce que les autres ont dit ? Et c'est pour ça que l'aspect vache qui rit, hein, c'est-à-dire on filme l'entretien, qui filme l'entretien, qui parle de l'entretien, etc. Là, on va avoir une engueulade entre eux, mais professionnelle, une controverse sur qu'est-ce que je comprends de ce que tu dis et moi, quand je dis ça, je ne t'aide plus, qu'est-ce que je veux dire par là ? Et je vous la montre pas parce que c'est pas vrai, mais... C'est cette espèce de boucle qui, pour moi, peut être vraiment très intéressante pour initier du travail et des discussions professionnelles à l'intérieur du collectif.
À un moment donné, si on veut être cohérent avec l'entrée activité réelle, qui est vraiment la base de toute l'ingénierie de ce truc-là, ben, il faut accepter de montrer, y compris ce qui n'est pas politiquement correct, ou ce qui est, mais qui relève de la réalité du terrain, hein, tout simplement.
Oui, voilà. Bah, c'est, enfin, ce que moi j'avais pas regardé ce moment-là, mais c'est exactement ce qui se passe au niveau basique dans nos établissements, les échanges entre collègues, c'est exactement ça. Mais t'as pas le droit de faire ça. Oui, mais je le fais parce que et soit les gens s'engueulent et ne se parlent plus. Enfin, ça peut en arriver jusque-là. Soit, ben, on essaye de continuer à échanger, mais comment on va faire modifier les positions. Et là, ça peut aider salement
là,
quand même.
Voilà, hein, c'est... Vous dites avec vos mots ce que nous on dit en analyse du travail, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où on va accepter de montrer les postures professionnelles des uns et des autres, et on va les faire se rencontrer dans quelque chose qu'on scénarise. C'est-à-dire que c'est plus Madame Machin contre Monsieur Truc, Madame Machin pensant que Monsieur Truc est un vieux con réactionnaire, et Monsieur Truc pensant que Madame Machin est un babacou 68 heures de un écrotard. Bon. On va leur montrer que c'est des problèmes professionnels. Et que ces gens-là, qui sont assez proches, finalement, ils peuvent avoir ce truc-là. Et en scénarisant ça, on en fait une discussion professionnelle qui, si elle est accompagnée, va nous mettre à l'épreuve, mais va nous éloigner de la dispute interindividuelle. C'est-à-dire, c'est des gens qui discutent boulot. Et Yves Clos, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un psychologue du travail, dit... c'est parce qu'on accepte de s'engueuler sur le travail qu'on dépasse la collection des individus qui sont l'un à côté de l'autre et qu'on fabrique du collectif. C'est-à-dire faire du collectif, c'est commencer à dire à des collègues « Attends, mais ce que tu fais, c'est pas du boulot, là. » Et c'est ce qu'il dit. Il dit à ses collègues « Oh, tu peux pas dire ça. » Et elle va justifier. Et à la fin, il n'y a pas quelqu'un qui va normer, parce que chacun d'entre vous va repartir de cette formation avec des petits bouts d'éléments. Mais bien incompétent, le formateur qui pourrait penser que grâce à son intervention, il a modifié les êtres. Il a juste permis aux gens de dire, je peux faire un tout petit rééquilibrage un petit peu différent. Et ce qui pour moi est le moteur du développement, c'est ça. Cette idée de dire, le développement c'est un continuum et ça n'est pas un interrupteur qui s'allume ou qui s'éteint.
Une formation qui est moins un formatage qu'une déformation, finalement. Essayer de déformer un petit peu les gens de là où ils sont à un moment donné. C'est pas moi le chef, mais il va être l'heure d'aller manger, non ?
Chance d'avoir bénéficié de cette formation-là. Enfin, de cet accompagnement-là. Est-ce que 5 ans, 10 ans, alors c'est peut-être pas, vous n'avez pas pu avoir le retour possible encore, est-ce qu'ils ont été plus usés que des enseignants qui en formation initiale ou en début de carrière n'ont pas eu cette possibilité-là ? Parce que, enfin, usé dans le sens où, ouais, fatigué, parce que une souffrance au travail.
On fait une recherche avec Françoise Lantôme et Françoise Caro à l'Université du Lyon 2 qui s'appelle « Durée dans le travail ». Hein, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des néos, mais on parle des paléos. Et effectivement, la difficulté, c'est que comment on fait pour durer dans ce travail ? Eh bien, c'est ce qu'on essaie de regarder d'un point de vue ressources, de recherche. Qu'est-ce qui fait ressources pour qu'on continue à durer dans le travail ? Qu'on se réorganise, qu'on change de métier, qu'on change d'environnement, etc. Mais il y a de multiples manières de durer dans le travail. Et ça, c'est un autre chantier énorme qui est à continuer à investiguer. C'est-à-dire que ce qu'on a commencé à faire avec la question des débutants, ben, on s'aperçoit, comme on le disait, que c'est une question de développement professionnel et de problème de métier. Et la question qui est posée, quand je parlais de l'établissement formateur, et c'est pour ça que j'insiste sur la question du pilotage, parce que vous comprenez bien, mais on en parlera cet après-midi, hein, parce qu'on va avoir des exemples qui illustrent ça cet après-midi et demain matin, on a essayé de penser un peu une cohérence dans ce qu'on fait, malgré tout, qui fait qu'on va essayer de voir que ça, on ne peut pas juste dire « Ah ben oui, il y a ça qui existe, mais moi, je n'y ai pas accès parce que tatatatatat. » C'est à quelles conditions ça devient possible ? Ben effectivement, ça a des conditions sur la posture du chef d'établissement, la posture du coordonnateur, la posture de l'inspecteur, la posture de l'IPR, la posture de tout ce qui va contribuer à ce que des dynamiques comme ça, elles ne soient pas le hasard de 0,1% des collègues qui trouvent des situations qui suscitent leur développement professionnel, mais que ça devienne un peu plus ordinaire que de se dire, débutant ou chevronné, dans notre métier, c'est possible de trouver des espaces de développement professionnel. Personnellement, c'est un enjeu politique absolument majeur pour que les enseignants puissent continuer à faire le travail impossible qu'ils essayent de faire.
Et sur la question de l'usure, la question de durer dans le métier, c'est l'un des objectifs fondamentaux d'une ergonomie du travail enseignant. Et on analyse souvent l'activité enseignante sous l'angle du sens et de l'efficience. Et en fait, ce qu'on a tendance à dire, c'est que celui qui trouve une certaine... Alors le sens et l'efficience sont toujours très imbriqués. Et celui qui trouve, l'acteur qui trouve une efficience dans son activité de travail, eh bien, c'est directement corrélé à son bien-être au travail. Et donc c'est justement quand on a, notamment chez les débutants, des gens qui sont dans une posture un petit peu sclérosée ou qui n'arrivent pas à développer des gestes professionnels efficients, et ben, très rapidement, ils sont pas à même de préserver une économie de soi et rentrent dans des dynamiques de mal-être au travail qui, si elles perdurent, peuvent vraiment avoir des effets très délétères sur ce qu'on peut appeler une usure, hein, tout à fait, par rapport au métier.
De questions qui sont ouvertes par ces problèmes, on continuera cet après-midi.
On prend une dernière question, mais de toute façon, dans la deuxième partie de l'après-midi, c'est les questions qui peuvent ressurgir.
J'ai pas vu en fait de petits moteurs par mots-clés, de recherche par mots-clés. Enfin, je ne l'ai pas trouvé, mais peut-être que...
L'application existe. Je n'ai pas encore eu le temps de la développer. J'avoue, je n'ai pas encore eu le temps de la développer. On est en train de travailler sur un moteur de recherche par mots-clés qui permette... Alors, pour l'instant, ce que j'espère être à court terme, on pourra trouver des ressources par niveau de classe et par discipline enseignée. Ce qui n'est pas le top, mais ce qui est déjà pas trop mal. Sachant que si ça n'a pas été pensé en amont, c'est parce que l'idée, c'est qu'on a toujours voulu développer des ressources transversales. C'est-à-dire que l'entrée est bien une entrée thématique, et qui n'est pas, alors qui peut se décliner dans différentes disciplines, dans différents contextes d'enseignement, mais qui ne veut pas être circonscrite justement à un contexte ou à une discipline. Donc c'est pour ça que l'entrée n'est pas dans le mot-clé, mais plus dans l'entrée thématique. Mais on l'a quand même pensé.
Ça m'intéresse vraiment de savoir combien vous êtes, parce qu'il y a un travail énorme, c'est pour avoir déjà travaillé en vidéo, etc., m'être filmé moi-même, avoir au bout de 10 minutes abandonné ma propre... m'observer moi-même, parce qu'on l'avait fait en vidéo, s'observer à plusieurs, c'était insupportable. Là, c'est vrai que c'est coupé par tranche parfois de 40 secondes. C'est absolument génial. Donc voilà, en tout cas, moi, je voulais vous féliciter.
L'équipe opérationnelle, chaque thématique est travaillée avec une équipe de chercheurs qui, par exemple, aider les élèves à travailler. C'est Christine Félix avec un ou deux collègues qui prend ça dans ses heures d'universitaire. Et qui, sans être rémunérés pour cela, j'insiste, hein, parce que les universitaires qui travaillent avec nous le font dans le cadre de leur travail de recherche et pas de manière... Enfin, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de budget pour le faire. Donc, on a un groupe d'universitaires qui sont à la fois notre veille scientifique, mais qui peuvent être des gens qu'on va mobiliser. Par exemple, Jean-Claude Mouton, il a été mobilisé sur le travail de faire la classe à cours double. Aujourd'hui, il travaille sur des ressources sur, par exemple, le lycée professionnel.
Donc on a de temps en temps des étudiants à qui on paye des piges pour faire des choses comme ça. On a un groupe d'informaticiens qui, dans le cadre du pool de services de l'INRP, maintenant de l'ENS, sont nos interlocuteurs qui donc travaillent avec nous de manière... Alors, à la genèse du projet, ça a été 3-4 informaticiens qui ont travaillé pendant un trimestre pour construire l'outil. Et là, aujourd'hui, bah, c'est des gens qui travaillent pour nous, on va dire, 2 à 3 heures par semaine. Hein, c'est, on peut dire à peu près ça, quoi. Voilà. Et puis, bah, l'équipe permanente, c'est Simon qui a travaillé à mi-temps jusqu'à cette année où on a pu enfin le salarié à temps plein. Et puis, le centre Alain Savary qui, depuis 4 ou 5 ans, a cherché... c'est-à-dire que c'est pas Néopass, c'est pas imposé d'un coup, c'est ces questions qui font que on était depuis longtemps sur les questions d'analyse du travail qui font que progressivement on a cherché d'abord des textes, puis des artefacts, puis des... et que progressivement avec l'aide de Lucria, etc., tout ça, ça s'est formalisé dans cet instrument parce qu'on s'est entouré de ces universitaires-là qui nous ont dit, ben voilà, la recherche, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça, et du coup, tous ensemble, on s'est dit, ah oui, du coup, on pourrait faire l'outil. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, et qui nous amuse assez, bien qu'on nous paye pas cher pour le faire, c'est que on développe, en fabriquant l'outil, des développements des différentes recherches sur l'activité. C'est-à-dire que quand les chercheurs viennent travailler avec nous sur la conception de l'outil, ils sont obligés de dépasser leur discipline de recherche et de faire des compromis. Parce que on n'en a pas parlé, mais si vous regardez bien Néopass, vous verrez que les différentes thématiques ne sont pas organisées strictement avec la même épistémologie scientifique, parce que chaque chercheur qui travaille avec nous, il met sa main.
Pour aller vite sur ce que vient de dire Patrick, dans ces situations, dans les logiques, ces fameuses logiques verticales hein, que comporte chaque thème, en fait, par exemple, sur le thème 1, on a pour une même situation typique, qui est l'entrée en classe et la mise au travail, différentes façon d'agir. Donc là, on a bien des types d'activités qui sont là. Hein. Ce sont des types d'activités, des types d'interventions d'enseignants qui sont répertoriés. Sur l'aide, par exemple, l'aide aux élèves au travail, l'entrée, c'est une entrée dilemmatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une façon d'intervenir de l'enseignant, même si elle est là en filigrane, mais on est sur un dilemme. C'est-à-dire montrer ou faire découvrir. C'est-à-dire que montrer, c'est important, faire découvrir aussi comment on se situe entre les deux. Faire des cours de méthodologie, oui. Aider, oui, mais jusqu'où? À chaque fois, on est bien sur une entrée dilemme qui est liée directement à l'épistémologie sous-jacente. Sur faire parler les élèves à l'élémentaire, par exemple, on n'est ni sur une façon d'intervenir, même s'il est toujours là en filigrane, ni forcément sur une entrée dilemmatique. J'ai ça et j'ai ça, comment je m'en sors? On est plus sur un format pédagogique. C'est-à-dire, on est sur le cours dialogué, afficher les productions. Afficher les productions, c'est quelque chose que tout enseignant de classe peut choisir de faire, indépendamment de l'intention. Enfin, indépendamment. Ça ne présume pas de son intention de formation. C'est un format pédagogique, c'est une façon d'organiser son activité. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un type d'intervention, ce n'est pas une entrée dilemmatique non plus, c'est un format pédagogique, une configuration d'activité. Donc voilà, en fonction. Et ça, c'est directement déterminé par l'entrée théorique du chercheur, qui est à l'origine de la conception. Donc il y a des petits pas de côté, même si, je le répète, le fondement, c'est toujours toucher à l'activité réelle, c'est-à-dire le quotidien de la classe. Ah si, pour la question de la vidéo, on a un technicien vidéo qui monte énormément de vidéos, et c'est surtout grâce à lui qu'on arrive à produire des ressources, parce que c'est, évidemment, ça prend un temps fou de monter toutes ces vidéos.